tribune de l'Odéon du 13 avril 2021. Flashback, 13 avril 1871. Il y a 150 ans, éclatait la Commune de Paris. Un souffle de révolte inouï dans l'histoire de France. Un mouvement révolutionnaire où l'ouvrier, le pauvre, la femme étaient partie prenante. Rappelons que la Commune est née de la révolte du peuple de Paris.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary. Bonjour à tous. Cette semaine, le voyage continue dans les rues de Paris à la découverte d'un grand événement de l'histoire de France et pourtant largement oublié, ou plutôt invisibilisé, la Commune de Paris. 150 ans après cette insurrection ouvrière qui, dès le 18 mars 1871, a enflammé la capitale et son peuple, Sarah Lefebvre est allée chercher les traces de la Commune dans la ville. Entre Montmartre, le Père Lachaise ou la place de la Concorde, en compagnie d'historiens, de militants et d'amis de la Commune qui, de balade communarde en rassemblement chantant, s'efforcent à faire vivre et entendre sa mémoire et son histoire. Car même 150 ans après, la mémoire de la Commune demeure controversée, sensible, certainement parce qu'elle nous parle aussi de violence, de répression et de guerre civile. En effet, à l'époque, le gouvernement d'Adolphe Thiers, à peine arrivé au pouvoir, signe l'armistice avec les Prussiens et déclenche la colère du peuple. La Commune est alors proclamée, Thiers se retranche à Versailles, mais Paris devient très vite un champ de bataille, surtout pendant la semaine sanglante qui, du 21 au 28 mai 1871, voit les forces de Thiers reprendre Paris et écraser la Commune. Après le rêve et les idéaux fondateurs du premier épisode, place donc aux barricades et aux fantômes de l'histoire pour la suite et fin de notre série « La Commune de Paris n'est pas morte ». Épisode 2, briser la révolte.
On va passer par là.
Là, on voit Paris.
Ouais. Mais là, le soleil n'est pas du bon côté. C'est un peu dans la brume. On voit pas très bien.
Jean-Pierre Theurier est membre des Amis de la Commune.
Et là, nous arrivons au Sacré-Cœur, un des monuments les plus visités de France, qui a effectivement une assez belle allure de choucroute.
De choucroute ?
Oui. Ce monument n'existait pas pendant la Commune, il a été construit immédiatement après. Exactement sur le lieu où a démarré la Commune. C'est-à-dire sur le lieu où les généraux Lecomte et Thomas ont été fusillés.
Alors, est-ce que sa construction a été décidée avant
oui.
ou après la Commune ?
Sa construction a été décidée avant. Le lieu n'était pas décidé avant, le lieu a été décidé après. Et il était clair pour tout le monde que c'était la revanche d'une certaine droite cléricale monarchiste qui existe dans le paysage français et qu'il le construisait ici, pas par hasard, mais exactement sur le lieu où la Commune avait démarré. Et c'était le symbole de son écrasement. Au moment de l'inauguration, il y a un archevêque qui l'a dit très clairement. Un monument expiatoire des crimes de la Commune. Alors très concrètement, l'abut Montmartre est un lieu où il y avait des carrières de gypse pour fabriquer du plâtre, avec des moulins qui servaient à fabriquer ce plâtre. Donc en dessous du Sacré-Cœur, c'est rempli de carrières. Et ça a été très long à construire, le monument n'a été inauguré qu'après la guerre 14-18. Mais dans ces carrières, en dessous, c'est là aussi où on a jeté tous les cadavres de communards. Puisque sur la butte, ça a été des massacres à peu près dans chaque rue. Et on ne savait pas quoi faire des corps. Et les corps ont été jetés dans ces carrières et on a construit le Sacré-Cœur dessus. Donc c'est à la fois physiquement sur les cadavres des communards et symboliquement sur les cadavres des communards. Les habitants de Montmartre ne l'ignorent pas. Les habitants historiques de Montmartre ne venaient jamais dans cette basilique. J'ai visité un jour Montmartre avec une dame d'un certain âge qui emmenait des touristes et elle, au moment où on s'est approché du Sacré-Cœur, elle leur a dit « Vous pouvez aller visiter si vous le souhaitez, moi je n'irai pas. Vous savez, moi je suis né ici, ma grand-mère m'a toujours interdit de rentrer dans cette église et je ne l'ai jamais fait. »
Au-delà des souvenirs de famille, que reste-t-il de la Commune de Paris et de sa répression dans la mémoire collective ? Quelques rares plaques commémoratives dans les rues de la capitale, des journaux communards et versaillais, et de nombreuses photos d'un peuple en armes au pied des barricades. La Commune sera le premier événement massivement photographié à la fin du 19e siècle.
La mémoire qu'on a de la Commune, c'est une mémoire de barricades. La représentation de la Commune passe par la photographie et la photographie de barricades. Et on a parfois même parlé de photoreportage pour la Commune. Alors c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas c'est sûr qu'on a un nombre de photos incroyables, et notamment ces photographies de barricades du 18 mars avec toujours ces gardes nationaux qui posent en fait. À la fois ce sont des images figées finalement de la Commune, puisque le temps de pose est extrêmement long, et en même temps ce sont des images émouvantes parce que on a ces gardes nationaux qui sont extrêmement soit heureux, soit fier, qui portent les armes, parfois le drapeau, qui sont devant le canon. Donc il y a tout un imaginaire collectif qui est derrière. Et puis il y a une grande fierté, hein, c'est une grande fierté du combat pour autre chose. Hein.
Alors, institutionnellement, je suis maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paris 13. Et spécialiste du 19e siècle, et en particulier de la Commune et de l'après-Commune.
Et alors l'Orgonino, là, on est à l'entrée du Jardin des Tuileries, l'une des entrées, et on surplombe la place de la Concorde, l'une des entrées de la place de la Concorde, rue Saint-Florentin, où il y avait l'une des plus grandes barricades, l'une des plus belles, dit-on, de la Commune de Paris.
Alors la plus belle, je ne sais pas, mais en tout cas la barricade la plus connue et probablement celle qui avait la plus grande dimension, oui, à tel point que les Parisiens la surnommaient ironiquement Château Gaillard. Elle était fortifiée, hein, c'était un ensemble fortifié et ça faisait allusion au responsable de la commission des barricades qui était Napoléon Gaillard.
Et est-ce que des barricades comme celle-ci, on en avait connu dans Paris avant la Commune ?
La barricade, c'était l'arme du 19e siècle, de toute façon. C'est ce qu'on utilisait quand on s'insurgeait, puisque des barricades, il y en a eu comme ça en 1830. Il y en a eu en 1832, Les Misérables, de Hugo. C'est en 1832, et il y a cette barricade hein, qui représente évidemment la révolte du peuple parisien. Il y en a en 1848. Donc il y a une tradition de la barricade. Début avril, la guerre avec Versailles commence. La commission des barricades a décidé qu'il y aurait les grandes barricades pour les grandes artères avec des dimensions précises, avec des formes précises, et puis les plus petites pour des plus petites rues avec des dimensions précises, avec des formes précises. Et la barricade de la rue Saint-Florentin, donc, elle est très haute, hein, elle va jusqu'au deuxième étage. Elle descend vers l'extérieur, il y a un fossé devant et puis il y a des endroits, des ouvertures pour le tir, et avec un corridor pour passer de la rue de Rivoli à la place de la Concorde. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est comme un château fortifié. Voilà. Bon, elle n'a pas été non plus très efficace, hein. On a mis en cause son efficacité et de fait, elle tient une journée, pas plus. Hein.
Dès le 19 mars, les autorités versaillaises font savoir officiellement devant l'Assemblée qu'elles ne feraient pas de conciliation, qu'elles ne négocieraient pas avec l'insurrection et qu'elles allaient créer les conditions pour faire payer aux Parisiens leur impertinence. Roger Martelly, je suis historien, j'ai enseigné pendant toute ma carrière donc dans l'éducation nationale, et depuis quelques années, je suis coprésident de l'association des amis et amis de la Commune de Paris 1871. Dès le début du mois d'avril, Adolphe Thiers dirige ses efforts militaires contre la capitale. Et d'ailleurs, dès le 2 avril, Versailles donne le ton en faisant exécuter de façon sommaire les communards pris les armes à la main. Le ton, c'est dans les opérations militaires contre Paris, on n'appliquera pas les règles, les lois de la guerre telles qu'elles avaient été codifiées quelques années plus tôt, en 1864, avec la Convention de Genève, qui assure évidemment la protection des prisonniers. Les communards sont des insurgés, pas besoin de jugement, dit-on au départ, c'est tout simplement la représaille pure et simple.
Dans son action politique et sociale, la Commune, ainsi que les Parisiennes et les Parisiens, sont en guerre contre le gouvernement bourgeois qui s'est réfugié à Versailles. Ce gouvernement attaque Paris. Et savez-vous qui Versailles a nommé pour diriger ses troupes? Vous savez? MacMahon. MacMahon, maréchal de l'Empire, qui, par négligence et incompétence, s'est humilié à la bataille de Sedan et fait ainsi perdre à la France la guerre contre la Prusse. Ce général incompétent va mettre plus d'énergie pour massacrer les Parisiennes et les Parisiens qu'il n'en a mis contre les Prussiens.
On va se mettre sur le trottoir peut-être pour pas se faire écraser. Laure Godineau, au pied de la colonne Vendôme, un grand symbole reconstruit depuis, mais de la Commune de Paris.
Alors, est-ce que c'est un symbole de la Commune de Paris? La colonne, c'est surtout un symbole de l'Empire. Et effectivement, c'est sa démolition qui est un symbole de la Commune de Paris. Parce que cette colonne a été édifiée au début du 19e siècle. Elle est terminée en 1810. Alors, à l'origine, ça devait être un monument à la gloire du peuple français. En fait, c'est devenu un monument à la gloire de Napoléon Ier et des conquêtes napoléoniennes. Et là, on est devant les bas-reliefs, que je n'avais jamais pris la peine d'observer de près.
Avec beaucoup d'objets de guerre, en fait.
Oui, c'est ça.
Des bottes, ouais. Des fusils, des canons.
Ouais. Cette colonne, alors on ne le voit pas d'ailleurs quand on est en bas, mais on le voit de plus loin, et surmonté par une statue de Napoléon en César. Et c'est ce que voulait démolir, ou en tout cas, c'est ce avec quoi les communards et les communardes voulaient rompre. C'est-à-dire à la fois le pouvoir personnel, et puis ça rappelait le militarisme. Et là, on le voit bien avec les bas-reliefs, hein, puisqu'on a toute cette question de désarmer. En réalité, donc au moment où la République est proclamée, donc en septembre 70, il y a un certain nombre de pétitions pour demander qu'on démolisse cette colonne. Donc là encore, hein, c'est pas quelque chose qui est arrivé ex nihilo au moment de la Commune. Et la démolition de la colonne donc, a lieu assez tardivement, puisqu'elle a lieu le 16 mai Donc c'est une vraie cérémonie qui est aussi destinée à rassembler au moment où la commune est quand même en très mauvaise posture militaire, enfin en très grande difficulté militaire.
La colonne.
Journal Le Cri du Peuple, 18 mai 1871.
Elle est tombée. La sentence du peuple est exécutée. Justice est faite. Elle est tombée, cette colonne faite de canons achetés par tant de cadavres, qui se dressait, sombre, rigide, brutale, lourde et bête, portant au ciel un faux César, aussi odieux que le vrai, monument de la dictature du sabre, du despotisme militaire au milieu du Paris républicain, artiste et ouvrier, pour lequel il était un outrage et un défi. Elle est tombée à l'heure du crépuscule, devant une foule énorme venue assister à l'exécution de cette fausse et odieuse gloire, condamnée par l'histoire et saluée dans sa chute, par l'immense viva de la délivrance, sortie de 10 000 poitrines. Au pied de la colonne, aujourd'hui, aucune mention de cette démolition. C'est comme si elle n'était jamais tombée. À 44 mètres de haut, la statue de Napoléon domine immuable la place des joailliers de luxe. Aucune trace non plus de sa reconstruction, décidée à la hâte en mai 1873 par Mac Mahon, alors nouveau président de la République. Le peintre, Gustave Courbet, membre de la commune, sera tenu pour responsable de sa destruction et devra en assumer les frais. Mais sur place encore, aucune mention de cette affaire. À quelques pas de là, le jardin des Tuileries et son palais disparu, symbole de l'insurrection et de la semaine sanglante qui commence le 21 mai.
Alors ce palais des Tuileries, donc, qui était une résidence royale, qui avait été la résidence de Napoléon III, la commune souhaite que le peuple le réinvestisse. Et ça va être le cas au moment de concerts. Il y a 4 grands concerts qui sont organisés par la commune au bénéfice des veuves et des orphelins, des gardes nationaux qui ont été tués pour la commune. Et donc là, le peuple investit ce palais des Tuileries. Et c'est là qu'on y trouve une affiche que je vais lire. « Peuple, l'or qui ruisselle sur ces murs, c'est ta sueur. Assez longtemps, tu as alimenté de ton travail, abreuvé de ton sang, ce monstre insatiable, la monarchie. Aujourd'hui, la révolution t'a fait libre. Tu rentres en possession de ton bien. Ici, tu es chez toi, mais reste digne parce que tu es fort. » Et fais bonne garde pour que les tyrans ne rentrent jamais. D'abord, il y a cette idée de liberté. Hein. C'est ce que disait aussi Vallès. Hein. Tu es un homme libre, fils des désespérés, tu seras un homme libre. Et le symbole, c'est vraiment ta sueur, c'est ton travail, c'est ton bien. Et tu reprends possession de ton bien.
Dans la vieille cité française, existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ces fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main, par la plume ou le marteau gagne, en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille, des jours et quelquefois des nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
Il y a aussi un concert qui est organisé le 21 mai. Il est dans le jardin des Tuileries. Donc c'est à cette occasion qu'ils ont pu écouter donc Rosa Bordas, la fameuse chanteuse, hein, la Bordas, comme on l'appelait, qui est célèbre pour avoir chanté « C'est la canaille », chanson qui est, en fait, est une chanson antérieure à la Commune, hein, qui date des années 1860. Et donc, dans le jardin, alors il y aurait eu à peu près 8 000 personnes qui auraient assisté à ce concert. Sauf que, en fait, on est le 21 mai, donc les Versaillais bombardent, les obus tombent tout près, en fait. Hein. Et le soir, l'armée entre dans Paris par l'ouest, donc par la porte du Point du Jour et la porte de Saint-Cloud. Donc voilà, on cite souvent ce concert parce qu'il y a une espèce de contradiction finalement entre l'armée qui entre dans Paris le soir même et puis la liesse et la joie au moment de ce concert dans le jardin des Tuileries. Alors voilà, là on est au printemps, on peut voir ce que le jardin des Tuileries au printemps. C'est la vie quoi.
C'est l'enfant que la vie. continue, force à rejeter ces haillons. Quand sonne sa 20e année, pour entrer dans nos bataillons, cher à canon de la bataille, toujours ici, on te s'en prie, c'est la canaille. Et là j'en suis. Enfin c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots. Mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle aussi ses drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
Donc là, on est toujours sur la butte Montmartre, Jean-Pierre Theurier. On a vu sur le nord de Paris.
Sur le nord de Paris, par où l'armée versaillaise va attaquer, à la surprise générale des habitants. L'armée versaillaise pénètre par le sud de Paris, par le point du jour, là où la Seine rentre dans Paris à Boulogne. Paris est envahi par le sud et par l'ouest, progressivement, des quartiers qui leur sont relativement favorables. Par contre, la butte Montmartre est un quartier difficile à prendre et l'armée française va obtenir l'autorisation de l'armée allemande de passer par ses lignes, ses propres lignes, pour pouvoir attaquer la butte de Montmartre par derrière, c'est-à-dire par le nord. Les habitants de Montmartre attendent l'armée versaillaise côté sud de la butte et donc tous les hommes valides sont descendus en bas vers la place Pigalle et la place Blanche. Et il ne reste sur la butte pratiquement que des femmes, des enfants et des vieillards. Donc ils vont monter la butte par le nord et se trouver confrontés à une population totalement désarmée. Donc ils vont prendre très facilement les barricades. Ils vont fusiller tout ce qu'ils peuvent et à cet endroit précis où le comte et Thomas ont été fusillés, ils vont rassembler 47 vieillards, femmes et enfants qu'ils vont fusiller ici, sur cette place. À Montmartre, il y a à peu près un massacre par rue. Donc si on fait une carte avec les massacres de la butte Montmartre, il y en a dans toutes les rues de Montmartre.
La journée du 24 mai.
Journal Le Gaulois, depuis Versailles.
L'histoire l'appellera la journée des incendiaires. Cerné dans un vaste carré long, délimité par la caserne Napoléon, la rue Saint-Honoré, la rue Royale, la place de la Concorde, les étrangers et les bandits qui avaient terrorisé Paris ont voulu se venger. Ils ont mis le feu aux Tuileries. Le feu a été mis par les dignes adeptes, français et étrangers de l'international. Au palais du Conseil d'État, à l'hôtel de la Légion d'honneur, à la préfecture de police, au ministère de la guerre. Au milieu de ce feu, de ce désordre, notre brave, notre digne, notre admirable armée marche résolument à la voix de ses chefs.
Il y a d'abord des incendies qui ont été provoqués par les obus versaillais, premièrement. Deuxièmement, il y a des incendies qui ont été allumés par les communards au moment de la semaine sanglante pour retarder la progression de l'armée versaillaise, notamment des incendies de bâtiments privés, enfin d'immeubles. Et puis, il y a aussi des incendies qui ont été allumés volontairement par les communards, des incendies d'édifices publics, parce qu'ils représentent le passé monarchique et le passé impérial. Donc, ils représentent exactement le type de passé avec lequel les acteurs et les actrices de 71 voulaient rompre. Donc, dans la semaine sanglante, dans la défaite, dans l'agonie, ils ont allumé le feu à ces bâtiments. D'ailleurs, c'est un sujet qui a été un sujet de controverse hein, aussi entre les communards eux-mêmes, puisque certains ont estimé que c'était des gestes fous, mais des gestes aussi provoqués par l'atmosphère de la semaine sanglante et puis par la défaite, hein, par l'agonie de la commune. L'armée versaillaise progressait.
Ils sont combien,
l'armée versaillaise ? Ils sont 120 000. Donc il y a plus de 120 000 hommes, et en face, il y en a théoriquement 40 000, et de moins en moins en fait. Il n'y en a plus que quelques milliers à la fin. Je pense qu'on a du mal à imaginer parfois ce qu'a pu être cette semaine. C'était abominable, abominable.
Thank you. petit tract sur la commune de Paris. Se réapproprier l'histoire. Bonjour, commémorer la commune de Paris.
C'est quoi que...
En fait, on est en train de faire un événement pour commémorer la commune de Paris, qui a eu lieu il y a 150 ans. Ah. Et du coup, ben voilà, ça fait des petits prospectifs qu'on a tirés.
D'accord, c'est bien.
Donc,
Oui, je me demandais, je me disais, qu'est-ce qui se passe?
Oui, oui, ben en fait,
enfin,
on a...
tous les deux, on se demandait,
on a commencé, c'est un peu une balade pédagogique, militante, voilà, on a quelques historiens, on fait des haltes, et du coup, il y a les prises de parole.
Ah oui, mais c'est bien.
Et là, on va finir à Belleville.
Ah, oui.
Parce que Belleville, c'était la dernière barricade qui a tenu, en fait. Donc voilà, c'est un peu le lieu héroïque.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Est...
Merci.
Voilà. Merci, de rien.
Vous êtes combien à tracter comme ça, là?
Oh, je sais pas, une petite dizaine. Bonjour, vous voulez un tract? Alors, des fois, les gens prennent, des fois, les gens prennent pas.
Et donc là, on est où, alors?
Là, on est dans les Buttes-Chaumont. Et on fait une déambulation commémorative... donc avec le collectif du 19e arrondissement qui se bat pour les libertés, les services publics dans l'arrondissement tout le long de l'année, on va dire. Et c'est pour en fait reprendre le chemin sur les traces historiques de la commune de Paris.
Dans les quartiers du Nord-Est.
Voilà, parce que ça s'est passé là en fait. Et puis parce que c'est... Alors, avec la pandémie, il y a beaucoup plus de choses qui devaient être préparées. Mais ça a été un peu tout annulé. Donc l'avantage de la déambulation, c'est que c'est en plein air, on marche, on peut respecter la distance, et donc voilà, au niveau sanitaire, c'est parfait. Voilà.
Et c'est quoi ces tracts alors que vous distribuez?
Alors ces petits tracts, c'est des petits tracts pédagogiques qui expliquent alors, bon, l'itinéraire, le lieu, etc. Mais qui expliquent aussi ce que la commune a apporté, comment la commune a été organisée, et les rapports entre les nécessités de reprendre aujourd'hui les luttes pour justement regagner tout ce qu'on est en train de perdre aujourd'hui à cause du libéralisme sauvage. Et puis montre aussi que la commune est d'actualité parce qu'ils avaient quand même mis en place des choses. Par exemple, pour l'égalité salariale homme-femme, on n'y est toujours pas. Ils étaient pour l'arrêt du travail de nuit des boulangers. À la demande des boulangers, on n'y est toujours pas. Ben voilà, il y a beaucoup de choses quand même où on n'a toujours pas gagné sur ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'on est au niveau social, on est dans une énorme régression. Quoi. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de se repencher sur la commune et de dire que c'était aussi un mouvement collectif de réappropriation. Avec y compris réquisition des logements vides, un gel moratoire sur les loyers, c'est-à-dire qu'il y a eu un gel des loyers pendant toute la période justement
du siège de Paris. En guerre contre la Prusse.
Voilà, en guerre contre la Prusse, et c'est ce que par exemple demandaient certaines associations pendant la pandémie de l'an dernier, enfin qui continue, mais ce qui n'a pas été fait. Donc c'est à nous de se réapproprier et de reprendre nos luttes en main.
Dernières grandes manifestations populaires ont eu lieu à l'occasion du 100e anniversaire en 1971. Depuis, ça s'est maintenu, les héritiers n'ont jamais abandonné, mais à un niveau plus bas, il faut profiter du 150e pour remonter.
Et voilà. Vous pensez, Roger Martelly, vous pensez qu'elle fait peur, cette commémoration?
Il y a une dizaine d'années, par exemple, la droite française donnait l'impression qu'elle avait mis un peu d'eau dans son vin, qu'elle avait assoupli son discours sur la commune. Et là, par exemple, au Conseil de Paris, on a vu ressurgir un discours qui était un discours de guerre civile, purement et simplement. Reprenant purement et simplement le discours des Versaillais, c'est-à-dire opposant alors qu'il y a ces dizaines de milliers de morts de la Commune de Paris, on va ressortir des destructions qui sont des destructions, mais quelle guerre ne fait pas de destruction de bâtiments, et on va ressortir la centaine d'otages qui ont été exécutés, et même pas sur décision de la Commune. Et donc, on appelle en quelque sorte à rejeter la mémoire de la Commune de Paris, expliquant que c'était un moment de barbarie, alors que la vérité historique oblige à dire que c'était un grand moment de sociabilité et de politisation populaire. Mais la droite, manifestement, qui se radicalise peut-être, c'est peut-être ça l'explication, choisit de retrouver un discours d'une violence extrême dans ce moment de trouble, dans ce moment d'incertitude. Je pense que c'est très grave. On n'a pas besoin de discours de guerre civile, on a besoin de quelque chose qui permette de rassembler dans un esprit d'émancipation sociale, individuelle et collective. C'est ça la Commune.
Rue de Lobo, ouais. Juste derrière l'hôtel de ville de Paris. C'était quoi ici, Roger Martelly, avant ?
Mais c'est tout simplement l'endroit où étaient exécutés les condamnés à mort, qui avaient été condamnés à mort un peu plus loin, place du Châtelet.
Au théâtre ?
Au théâtre du Châtelet, où se tenait la cour prévôtale, cour martiale, qui jugeait donc les communards pris les armes à la main. Une fois le jugement prononcé, ils étaient transportés à la caserne Lobo et fusillés. Alors on estime, c'est rappelé sur cette plaque qui a été placée à l'occasion du 140e anniversaire, les exécutions durèrent sans discontinuer 5 jours. Les estimations du nombre de fusillés vont de 2000 à 3000 personnes. Les cadavres étaient rapidement enterrés dans les squares avoisinants fermés au public. Et, citation de Victor Hugo, « Un bruit lugubre emplit la caserne Lobo, c'est le tonnerre ouvrant et fermant le tombeau. » L'année terrible, 1871.
Le nombre de morts de la Semaine sanglante, c'est objet de controverses multiples, qui ont commencé d'ailleurs dès 1871. En 1871, on a avancé assez rapidement le chiffre de 17 000 morts. Et puis, Maxime Ducamp, écrivain anticommunard, a parlé de 6 500 morts, donc il réduisait nettement. Au moment de l'amnistie, Camille Pelletan a avancé le chiffre de 30 000 morts. Bon, donc il y a eu vraiment une bataille dès 1871 sur ces chiffres. Alors pendant très longtemps, on a estimé qu'on pouvait avancer une estimation autour de 20 000 morts. Et puis, Michel Audin, dernièrement, est arrivé à une estimation autour de 15 000, enfin au moins 15 000. C'est une mathématicienne à l'origine, passionnée de la Commune, c'est une très 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 grande connaisseuse de la Commune.
Et elle a écrit plusieurs livres sur la Commune, et notamment « La Semaine sanglante ».
Et effectivement, elle a essayé de recompter en disant qu'on ne pourra jamais connaître le nombre exact de morts, puisqu'il y a un certain nombre de morts, de corps qui ont disparu, qui ont été brûlés, qui ont été jetés dans la Seine, qui ont été jetés dans les sous-sols. Donc voilà, on ne pourra jamais savoir le nombre exact. Mais ce qu'elle met en avant, c'est le fait que le nombre de morts, ça n'est pas simplement une question de chiffres. Derrière, il y a des hommes, des femmes, il y a des familles, il y a quelque chose d'humain. Voilà. Et c'est vrai que quand on a une querelle comme ça sur les chiffres, on a tendance un peu peut-être à oublier la part d'humanité qu'il y a derrière, ou d'inhumanité d'ailleurs.
Le 27 mai, les communards avaient installé des canons ici pour lutter contre l'armée versaillaise. Ils avaient entreposé les obus dans la sépulture qu'on voit derrière nous du duc de Morny. On a des lithographies, des gravures qui montrent bien comment c'était organisé. Et il y avait même Louis-Michel ici.
Là, on est en hauteur du cimetière du Père Lachaise.
on commence à monter. Alors, tu remarques la tombe de Balzac, celle de Souvestre, celle de Sarrazin. Tu vas voir pourquoi je te dis ça.
Non.
Regarde cette lithographie où tu vois Balzac, Souvestre,
Sarrazin
et la tombe de Charles Nodier et les combats, les derniers combats des communards avec les Versaillais. Très vite, ils n'ont plus de balles. C'est un combat qui se termine à l'arme blanche dans une nuit noire pluvieuse. Mais les traces de balles, tu les as ici.
Sur la tombe de Charles Nodier, membre de l'Académie française et de la Légion d'honneur bibliothécaire de l'Arsenal, sa tombe est trouée de balles.
Complètement, sur les trois côtés.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Impossible de tous les compter, en fait, il y en a beaucoup.
Il y en a d'autres ici.
Et donc tous datent, est sûr.
C'est les combats de la commune qui se déroulent ici et que tu vois représentés là, avec des morts déjà un peu partout. Et les 147 derniers survivants sont pris ici et sont emmenés au mur des fédérés pour être fusillés. Il se trouve qu'on sait depuis peu de temps, 2-3 ans, qu'ils n'étaient pas 147 mais 148, parce que quelqu'un nous a amené les mémoires d'un de ses arrière-grands-pères qui était là dans ces combats, qui raconte qu'il a réussi à fuir. Ses copains l'ont caché dans une tombe vide. Il avait beaucoup d'enfants. Ses copains le savaient, ils l'ont jeté dans la fosse vide en lui disant « essaie de t'en tirer, au moins toi ». Et il s'en est tiré, il a tué un garde pour sortir, et il a réussi à s'échapper. Alors, nous nous trouvons ici devant le mur des fédérés qui est fleuri. Alors, c'est le mur devant lequel les communards, les 147 communards survivants des combats du Père Lachaise ont été fusillés. On a amené ensuite des tas d'autres personnes pour les fusiller ici, où on a amené les cadavres. En fait, on les fusillait un peu à gauche, en haut de la butte, et les cadavres roulaient jusqu'ici. Voilà, c'est bien l'endroit où ces gens sont enterrés. Au début, il était interdit de célébrer la mémoire des communards. Une plaque a été apposée en 1908, une première plaque. Devant ce mur se retrouvent périodiquement tous les gens qui veulent commémorer la mémoire de la commune, mais il se trouve que c'est aussi en général lié aux luttes sociales du moment. C'est-à-dire qu'on a énormément de gens qui viennent ici en 1936, par exemple. Il y a 600 000 personnes qui défilent. C'est le Front populaire, c'est un moment de grande révolte ouvrière, et donc à ce moment-là, on se souvient de la commune. Il est d'ailleurs étonnant de voir que les photographies de l'époque des manifestations du Front populaire comportent énormément de références à la commune, énormément. Pendant la guerre, eh bien, les résistants font beaucoup de références à la commune, mais évidemment, on n'a plus le droit de venir ici. Ceux qui veulent à tout prix commémorer passent derrière ce mur, jettent des fleurs à l'intérieur, mais la Gestapo les attend et c'est en général une condamnation à mort. Hein. Avoir jeté une rose, une tulipe ou je ne sais quoi par-dessus le mur signifie une condamnation à mort pour ces jeunes-là. En 1945, c'est un énorme défilé qui va durer 7 heures.
Qui aura pour fin ce fameux mur des fédérés ?
Ah oui, qui est le défilé devant le mur des fédérés dure 7 heures. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, le lien entre la résistance et la commune est très net. Le Conseil national de la résistance, qui fait toutes les mesures sociales encore en vigueur, tant bien que mal aujourd'hui, sont élaborées dans les maquis de la résistance par des gens dont Chabrol, par exemple, qui en faisait partie, disait tous les soirs dans les feux de camp, dans les fermes où nous étions, tous les gens racontaient la commune. Ce qui avait été fait, ce qu'ils avaient oublié de faire, etc. etc. C'était la référence permanente. Donc c'est un haut lieu de célébration.
Le mur est en pierre.
Oui.
Au bas du mur, il y a plein de parterres de fleurs donc qui sont entretenues chaque année, j'imagine, avec des buis, des pensées, des roses trémières. Et au centre, cette immense plaque commémorative.
sur laquelle il est écrit « Aux morts de la Commune, 21-28 mai 1871 ».
Dès mai 1871, la plupart des images sont des images anticommunardes. Il y a une parole aussi, une parole qui est anticommunarde, il y a une presse anticommunarde, et les communards et communardes sont condamnés au silence, puisque de toute façon, ils sont victimes de la répression. Alors, il y a eu quand même 40 000 arrestations, 10 000 personnes qui ont été condamnées. Et dans les 10 000, il y en avait quand même autour de 4 000 qui sont partis en Nouvelle-Calédonie. Alors, sachant que la Nouvelle-Calédonie, c'est à la fois la déportation et le bagne, hein, ce qui n'est pas la même chose. La majorité des communards et des communardes qui sont envoyés en Nouvelle-Calédonie sont condamnés à la déportation. Et là, il s'agit en fait d'une sorte de prison naturelle, si je puis dire, parce qu'évidemment, il y a une surveillance, et puis il faut pointer à l'appel. Ce sont des gens qui sont quand même envoyés à des milliers de kilomètres de Paris. Puis il y a les condamnations au bagne, c'est-à-dire la condamnation aux travaux forcés. Et c'est aussi en Nouvelle-Calédonie, donc au bagne de l'île Nou, qui est dans la rade de Nouméa. Et là, c'est encore pire, si je puis dire, que la déportation. Comme dit Louise Michel, hein, c'est le cercle le plus sombre de l'enfer. Hein. Un certain nombre de condamnés politiques, donc de communards condamnés, la subiront. Et alors, il reste jusqu'en 79 ou 80. Au moment de l'amnistie, là, ils sont rapatriés par bateau. Voilà, donc c'est long, hein, c'est long. D'abord, encore une fois, moi, je reste... je m'interroge encore sur ce que peut représenter la déportation en Nouvelle-Calédonie pour des gens qui, parfois, n'ont jamais quitté Paris. Et puis, il y en a un certain nombre qui vont mourir en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a un cimetière des déportés en Nouvelle-Calédonie, des déportés communards. Donc là effectivement, il y a une profusion de textes dans les années 1880, parce qu'il faut dire, parce qu'il s'agit de la mémoire des vaincus, parce qu'il y a eu des milliers de morts, parce qu'il y a eu l'exil, il y a eu la déportation, il y a eu le bagne, d'une certaine façon, Clément et d'autres, hein, estiment qu'ils n'ont pas le droit de se taire. C'est une opposition aussi à ce que voulaient les républicains modérés quand ils ont voté l'amnistie, puisque les républicains modérés voulaient qu'on oublie la Commune. C'était le mot d'ordre, c'était oublier, hein, donc l'amnistie c'est l'oubli. Et précisément, ce que disent ces communards qui rentrent, c'est que non, on ne peut pas oublier.
Supposons que le peuple soit vaincu. Supposons que les bonapartistes et les royalistes rentrent à Paris, en barbotant dans les mares de sang et en piétinant sur des cadavres. Que restera-t-il de la Commune ? Des décrets sur les murs ? Des affiches que l'on déchirera ? Répondront ceux qui n'y voient pas plus loin que le bout de leur nez ? Ah, vous vous trompez ! Quand bien même ces décrets n'auraient pas reçu leur pleine exécution, quand bien même vous déchireriez toutes les affiches, quand bien même vous passeriez tous les murs à la chaux, vous ne parviendrez pas à enlever de nos esprits les principes qu'ils ont affirmés. Vous n'empêcherez pas que le peuple ait senti la différence qu'il y a entre les gouvernants de Versailles et les membres de la Commune. Vous n'empêcherez pas que le peuple ait vu là le salut des travailleurs et l'avenir du monde.
Jean-Baptiste Clément, Le cri du peuple, 24 mai 1871.
tombe de Blanqui, qui a été élevée par souscription populaire. Et on voit que cette tombe est toujours fleurie. À chaque fois que je passe devant cette tombe, elle est fleurie. Il était considéré comme le plus grand révolutionnaire français du 19e siècle, même s'il est largement oublié aujourd'hui. On voit que son gisant a une forme très christique avec la couronne d'épines, etc.
Il est allongé, étalé, il y a son bras qui pend et il est recouvert d'un drap. C'est une statue en bronze.
Absolument. Et ce fut sans doute le leader qui a manqué à la Commune en 1871. C'est en tout cas ce que Marx disait. Et c'est lui qui a été fait prisonnier juste avant que la Commune commence par Adolphe Thiers, emmené au fort du Taureau dans la baie de Morlaix. Et après la Commune, on l'a condamné à 7 années de prison pour sa participation hypothétique à la Commune s'il avait été présent à Paris. Ce qui est quand même assez extraordinaire comme condamnation. Mais ils ont raison, il aurait participé à la Commune, c'est sûr. Blanqui, on l'appelait l'enfermé ou l'insurgé permanent. Il est beau et il est fleuri.
Bonjour.
Bonjour.
Ah, pardon.
Vous connaissez Auguste Blanqui ?
Moi, j'adore ce monsieur. Hein. 36 ans de prison pour le peuple. Fallait quand même y aller. Hein. Non, non, c'est un grand, grand monsieur, ça. On lui doit le respect. Chaque fois que je viens lui caresser le visage. Toc, toc. Ouais.
Comment vous l'avez connu, vous, Auguste Blanqui ?
Ben, je l'ai connu, je connaissais le boulevard Auguste Blanqui et tout. Et après, quand je me suis, documentée sur la Commune, j'ai appris ce qu'il avait fait, quoi.
Pourquoi êtes documentée sur la Commune ?
Mais parce que pour la Commune, c'est le peuple, c'est nous. Hein. C'est important, hein. Ça me parle. J'aurais dû vivre au temps de la Commune, je pense. Mais peut-être, ça aurait peut-être pas été le bon choix. Mais bon, pour ce qu'ils ont fait, oui, on leur doit beaucoup de respect. Voilà.
Merci.
Merci à vous.
Vous vous appelez comment ?
Fatoumata. Mon nom de famille, Kane.
Enchantée, Fatoumata.
Merci, de
même. Bonne balade.
Voilà. Et travaillez bien.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
La Commune de Paris n'est pas morte, c'était une série radiophonique de Sarah Lefebvre en 2 épisodes réalisés par Laure Allary. Merci à Gabriel Sandman, au chant solo, merci aux brigades Louise Michel et à la Fanfare Invisible pour la musique, merci aux historiennes Mathilde Larère, Laure Godineau et Michel Rio-Sarcet, merci aux amis de la Commune, Jean-Pierre Terrier et Roger Martelly, merci enfin au collectif Raspoutim, à Philippe Urvois et à Joseph Hulla, auteur de Paris 1871, L'Histoire en Marche, paru aux éditions Libertaire. Merci enfin à Sarah Lefebvre pour ce voyage communard. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même planète.
La marche du monde.